Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, début effectif ce lundi des épreuves de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au Nord Kivu, malgré la présence de la rébellion AFC M23, ces épreuves ont lieu. Cependant, certains centres de Rutshuru et Massi se sont délocalisés à la suite des affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo. Le commandant du secteur opérationnel de l'Ituri annonce l'arrivée d'un renfort militaire pour sécuriser la zone des commandants dans les territoires d'Irumu. Le général Bruno Mandevu appelle ceux qui collaborent avec les rebelles ADF à cesser. Cet appel intervient à la suite de l'attaque de ces mouvements la nuit de samedi à dimanche à Komanda, ayant fait une quarantaine de morts. Notre invité ce midi est Joseph Moswala, responsable du bureau d'approvisionnement à la MONUSCO. Il explique les modalités de l'opération de la vente aux enchères des articles divers et usagés, composés notamment des véhicules et appareils électroménagers menés par la mission onusienne dans les villes de Kinshasa, Beni et Bunia. Mesdames et messieurs, bonjour. Éducation pour commencer. Au Nord Kivu, le lancement des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2025 est effectif dans la zone occupée par les mouvements armés AFC M23. Cependant, dans plusieurs localités, cela se passe dans un contexte de défis sécuritaires. C'est notamment dans certaines localités des territoires des Rutshuru et des Masisi où des affrontements opposent jusqu'à ce lundi les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. Certains centres d'examen d'État y sont délocalisés. Les détails avec vous, Kaki Akewa.
Dans les villages Shoa et Chamarambo, groupement Boabo, territoire des Masisi, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus depuis la matinée ce lundi. Selon des sources locales, cette situation intervient après des affrontements autour des Luke et puis Niabiondo dans les mêmes secteurs Osso-Baniungu. Des affrontements qui opposent les groupes Pareco d'une part et ASLS des Janvier Kariri de l'autre contre le mouvement rebelle AFC M23. Au moins deux centres d'examen d'État qui étaient censés fonctionner à Luke ont à présent été délocalisés à Kinigi, dans les groupements voisins des Mufuni Kibabi, indiquent nos sources. Par ailleurs, dans les territoires des Rutshuru, des tirs sont entendus ce lundi dans les villages Machango et Mudugudu. Selon les sources locales, il s'agit de la poursuite des affrontements opposant l'AFC M23 au Wazalendo du collectif des mouvements pour les changements CMC. Plusieurs villages de la zone sont vidés de leurs habitants qui fuient vers la brousse. Deux centres d'examen d'État qui étaient opérationnels dans la zone avaient déjà été délocalisés, précise ses sources. Les centres des Birambizo fonctionnent à Nyanzale et celui des Bambo fonctionne à Tongo, indique ses sources. Et si les centres d'examen d'État des Mweso, Kichanga ou Nyanzale fonctionnent ce lundi, c'est dans un climat d'inquiétude après des combats ayant eu lieu tous les week-ends autour des dites agglomérations, déplorent certains notables locaux. Rappelons que plus de 68 000 élèves finalistes du secondaire prennent part à ces épreuves au Nord Kivu, y compris dans la zone sous occupation de l'AFC M23. Où les kits ont été déployés par l'UNICEF.
Kaki Akewa, examen d'État dans la province éducationnelle Tchopo 1, 21 863 candidats sont inscrits dans 10 049 filles. Ces statistiques sont révélées par l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Tchopo 1 à l'occasion bien entendu du lancement officiel de ces épreuves par l'autorité provinciale. Aki Sangani, un reportage de Jacques Mkonkoli.
La cérémonie officielle du démarrage de l'examen d'État édition 2025, présidée par le vice-gouverneur, s'est déroulée à l'Institut des Sayo en présence de plusieurs autorités. Les 21 863 candidats sont répartis dans 67 centres de passation, dont 57 dans la ville de Kisangani et 10 à l'intérieur, selon l'inspecteur principal provincial Kisangani 1, Cyprien Bisanga.
En outre, nous tenons à vous informer que notre province éducationnelle organise 21 options, dont 3 vice-gouverneurs. Général, 15 pour les options techniques et 3 pour le cycle court.
Le délégué de la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou, tout en rappelant sa mission, exhorte les finalistes à la culture des valeurs et de la méritocratie. Pour sa part, l'autorité provinciale Didier Lomoyo renchérit dans le même sens avant de procéder à l'ouverture des malles des items.
Je vous encourage sincèrement et vous recommande de saisir cette opportunité à travers ces épreuves pour défendre votre propre honneur et celui de la province, en mettant en pratique toutes les connaissances qui vous ont été transmises.
Bien que le choléra sévisse avec ampleur dans la Tchopo, tous les centres ont été désinfectés pour éviter la contamination, a révélé le directeur provincial de l'éducation, Alain Mwimbi Mwimbi, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et au Maniema, le coup d'envoi de l'Exeta a été donné par le gouverneur des provinces, Moussa Kabankoubi Moïse, à partir de l'école primaire Tuendele. La province éducationnelle Maniema 1 aligne 16 000 candidats répartis dans 51 centres, au lieu de plus de 18 000 candidats. Le directeur de la province éducationnelle déplore cette déperdition des effectifs des candidats à l'examen de la hors session. Et puis, la province éducationnelle Kassai Oriental 1 a désormais son centre de correction automatique de l'examen d'État. C'est-à-dire, les mâles de l'examen d'État ne seront pas retournés à Kinshasa. Les 23 521 candidats qui sont accueillis dans 56 centres feront donc leurs examens corrigés au centre automatique basé en Mbujimayi. D'après Pierre Kabianda, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kassai Oriental 1, les données de l'examen seront transmises à Kinshasa pour la publication dans un bref délai. Sachez d'une manière générale qu'au moins 1 079 341 candidats du cycle long, dont près de 43% des filles, ainsi que 6 022 autres du cycle court, dont environ 17% des filles, prennent part à cette 58e session ordinaire de l'examen d'État. Ils sont répartis dans 3 165 centres à travers le pays et 13 autres établis aux pays limitrophes, notamment en Angola, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, a officiellement lancé ses épreuves au collège Don Bosco, situé dans la commune de Massina, ici à Kinshasa. Blaise Nongala Mayanda était sur place.
Comparé à la session 2024, cette année scolaire connaît une augmentation de 117 054 candidats, soit une hausse de 12,1%. Cette édition est marquée par plusieurs innovations, notamment la numérisation de l'inscription via une plateforme sécurisée. Le ministère de l'Éducation nationale a également ouvert des centres modernes d'escannage des copies, l'un situé en Mbujimayi, dans la province du Kassai Oriental, et l'autre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. La ministre d'État en charge de l'éducation estime que ces candidats finalistes incarnent l'espoir d'un Congo nouveau, debout, compétent et solidaire. Elle affirme également que la réussite de cette épreuve certificative témoigne du respect de plusieurs valeurs. Raissa Malou.
Votre engagement jusqu'à cette étape est en soi une victoire. L'examen d'État n'est pas seulement une évaluation, il est aussi un acte civique, une épreuve de vérité, une opportunité de mettre en pratique les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Intégrité, responsabilité, persévérance, respect des règles et engagement pour le bien commun.
Depuis sa toute première édition en 1967, l'examen d'État est resté un pilier du système éducatif national et un rendez-vous annuel incontournable qui marque le parcours de centaines de milliers de jeunes en RDC.
Cessez toute collaboration avec l'ennemi, car il est difficile pour lui d'opérer sans une complicité interne. Appel du général-major Bruno Mandevu, dimanche à Komanda, où plus de 40 civils ont été massacrés par les rebelles ADF dans la nuit de samedi à dimanche. Le commandant du secteur opérationnel de l'Ituri a aussi annoncé l'arrivée d'un renfort militaire pour sécuriser la zone. Un extrait de sa déclaration sélectionné par Jean-Claude Loki Dile.
Le message le plus important à vous dire est que l'ennemi ne peut pas entrer dans un milieu sans une complicité interne. L'ennemi est entré parce qu'il est accompagné de nos enfants des commandes. Cessez dès aujourd'hui toute collaboration entre ces ADF et nous les Congolais. N'est-ce pas ceux qui sont morts sans frères? Qui leur donne toutes ces informations? N'est-ce pas nous-mêmes? L'armée va continuer à rester ici pour traquer l'ennemi partout jusqu'à ce que la sécurité soit totalement rétablie. S'ils pensent que les FRDC vont se retirer, il est hors de question. Bien au contraire, d'autres militaires viennent en renfort pour continuer à vous sécuriser jour et nuit. Les dispositions sont également prises pour sécuriser les agglomérations. Que Dieu continue à veiller sur vous. Mais aidez aussi les services de sécurité en partageant les informations avec eux, pas à l'ennemi. Merci.
Merci. Restons en Ituri. La paroisse catholique Saint-Jean des Capucins de Lopa est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'annonce un décret de l'évêque du diocèse de Bounia, signé le 25 juillet et rendu public dimanche lors des cultes dominicaux. Une décision qui fait suite à la profanation et au vandalisme perpétré par la milice Codeco le 21 juillet dernier. Jean-Claude Loki Dile nous appelle de Bounia.
Selon les décrets de l'évêque du diocèse de Bounière, cette fermeture est motivée par la gravité des actes posés par les miliciens de la Codeco lors de leur incursion du 21 juillet. Ils ont non seulement saccagé l'église, mais aussi profané le très saint sacrement, vandalisé le sanctuaire marial et la résidence des prêtres. En outre, l'Eucharistie répandue au sol, des objets liturgiques détruits et plusieurs biens matériels emportés. L'évêque parle d'un acte, je cite, gravement injurieux, contraire à la sainteté des lieux de culte et qui nécessite une réparation canonique. En attendant, les prêtres ne pourront plus exercer leur ministère dans les lieux profanés, mais pourront rencontrer les fidèles dans d'autres structures ecclésiales, selon Monseigneur Dieudonné Oringhi. La réouverture de la paroisse dépendra, précise le diocèse, de l'évolution de la situation sécuritaire à l'OPA. Les autorités ecclésiastiques disent avoir saisi celle de la province et la MONUSCO, réclamant une enquête, justice et réparation face aux dégâts subis. L'évêque appelle afin les fidèles à garder le calme et à œuvrer pour la paix en observant les directives pastorales en cours. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Kapi.
De son côté, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, condamne l'attaque survenue dans la nuit du 26 au 27 juillet à Komanda, environ 60 km au sud-ouest de Bounia, dans les territoires du Rumu. Nous sommes toujours à Ituri. Selon des informations officielles, cette attaque attribuée aux rebelles ADF a causé la mort d'au moins 43 civils. La majorité des victimes ont été tuées à l'arme blanche dans un lieu de culte. Plusieurs personnes ont été enlevées. Dans son communiqué de presse parvenu ce matin à Radio Kapi, la mission onusienne réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers à déposer les armes sans condition et à retourner dans leur pays d'origine. En coordination avec les autorités locales, la mission dit avoir apporté son soutien aux opérations de prise en charge des victimes, notamment à travers l'organisation des inhumations et la fourniture des soins médicaux aux blessés. Parallèlement, la MONUSCO a intensifié ses efforts de sécurisation autour des commandes en augmentant la fréquence de ses patrouilles dans la zone, précise le communiqué. Et dans la partie ouest du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC alertent sur la recrudescence d'actes de violence et de violations graves des droits humains perpétrés par certains éléments de la milice Mobondo dans plusieurs villages de la commune urbano-rurale de Maluku, notamment dans les environs de la cité de Bankana. Selon le communiqué de l'armée rendu public hier, des informations fiables appuyées par des images reçues font état des traitements inhumains et dégradants infligés à des civils. Le capitaine Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Ngemba, explique les faits au micro de Vanessa Kongolo.
Le dernier incident en date a eu lieu le 21 juillet 2025 lorsqu'un groupe de compatriotes a été pris en otage par des insurgés Mobondo près d'Mbakana. Ces victimes ont été torturées et l'un d'entre eux a malheureusement succombé à ses blessures quelques heures après. Suite à cette situation inacceptable, les FARDC sont intervenus rapidement pour libérer les otages et les transporter dans une structure sanitaire d'Mbakana où ils ont reçu les soins nécessaires. Face à la gravité des faits, des patrouilles de combat ont été déployées dans la zone pour sécuriser la population et mettre la main sur les auteurs de ces actes barbares. Des enquêtes sont en cours afin d'identifier le responsable et les traduire en justice. L'armée réitère sa détermination à utiliser tous les moyens légaux pour protéger les populations civiles et mettre fin à toute forme de désordre ou de rébellion dans cette zone.
Direction le Kassai Oriental, le président du conseil d'administration du Fonds national d'entretien routier FONER s'est dit préoccupé par l'état d'avancement des travaux de lutte anti-érosive effectués sur le ravin Moulamba à Wampoi sur la route Salongo par l'entreprise chinoise CGCD sous la supervision de l'Office des voiries et drainage OVD. Le ravin Moulamba Wampoi est l'un des ravins dangereux de la ville de Mbujimayi car il a englouti plusieurs maisons non dénombrées et des éboulements qui ont créé des pertes en vies humaines. Au cours de la visite effectuée la semaine dernière sur différents chantiers en compagnie du ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, le DG des FONER a exprimé sa désolation autour de la progression du ravin Moulamba Wampoi, dont les travaux ont été officiellement lancés en 2021 pour une durée de près de 2 ans. Le PCA des FONER, Alonso Ngoi Lubika, s'exprime au micro des journalistes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Suivez.
Nous avons l'impression que ça s'est empiré. Ça s'est empiré parce que les ravins continuent à progresser. Et cette même érosion-là, nous l'avons visitée il y a 3 ans, quand je suis venu ici. Ma première visite. Et je crois que beaucoup étaient avec nous ici. Et à ce temps-là, le montant était à 1 million, à peu près. Mais maintenant, ça excédait même ce qu'il fallait faire. Nous avons parlé de ce manque d'urgence dans le décaissement, l'intervention des besoins des érosions. Mais tout sera emporté, donc on va aller au point zéro. C'est une zone sinistrée. Une zone sinistrée qui a été abandonnée à elle-même. Et tout ce que nous faisons là, nous faisons comme du rattrapage. Il y a eu des morts ici, parce que il y a eu des éboulements, tout ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas normal.
Actualité internationale.
L'investiture de Faustin Archange Touadéra par son parti, le mouvement Cœur Uni, continue de faire réagir en Centrafrique. Grâce à la nouvelle constitution adoptée en août 2023, le chef de l'État peut briguer un nouveau mandat. Une annonce qui divise profondément la population à 5 mois des élections générales.
L'invité.
Nous l'avons dit dans les titres, la MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés composés de véhicules, appareils électroménagers, équipements de communication et électronique, pompes et conteneurs. Selon Joseph Moussoala, responsable d'approvisionnement à la MONUSCO, 3 villes sont retenues pour cette vente. Il s'agit de Kinshasa le 5 août prochain, Beni et Bunia le 12 et le 13 août. La présence physique de tous les intéressés est obligatoire les jours de la souscription, martèle-t-il. Suivez toutes les modalités de cette opération dans cet entretien de Joseph Moussoala Makambo accordé à Blaise Shindani Kambala.
Monsieur Joseph Moussoala, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La MONUSCO prévoit une vente aux enchères de plusieurs lots. Pouvez-vous nous préciser de quel article il s'agit exactement?
Merci pour la question. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a prévu faire la vente aux enchères principalement dans 3 villes. Il s'agit de Beni, Bunia et Kinshasa. Et là, les différents lots comprennent les matériels du genre groupe électrogène, véhicules et puis les équipements électroniques. Et cette vente dans ces différentes villes sont prévues dans des dates telles que Kinshasa, c'est déjà pour le 5 août, et Beni et Bunia, il y a 2 jours, du 12 au 13. Pourquoi 2 jours? Parce que la plupart des clients qui vont acheter à Beni vont aussi à Bunia. Donc c'est pour permettre que celui qui était à Bunia puisse aussi se déplacer le jour suivant à Beni et vice versa. Mais pour Kinshasa, c'est seulement un seul jour.
Oui, et parlons maintenant du déroulement de la vente. Comment cette vente va-t-elle se passer concrètement et que doivent faire les personnes intéressées pour participer aux enchères?
Ok, comme le programme est donné, il est demandé à tous les enchérisseurs qui veulent bien participer à notre vente, d'abord de suivre le communiqué parce que ça indique les endroits précis où la vente aura lieu. Comme ici à Kinshasa, on sera à Kingabwa, à notre site qu'on appelle Incal. C'est là qu'il y a l'entrepôt de PDU où tout le matériel qui sont mis en vente sont exposés. Et là, le jour de la visite, les gens vont arriver sur place pour visualiser le matériel qui est mis en vente. Et à la même occasion, il y aura une session de briefing, donc une session d'information, où on va d'abord remettre les documents qui contiennent la liste de tous les biens qui sont mis en vente, et on va donner des explications aux acheteurs pour les aider à mieux comprendre et à mieux présenter leur soumission pour qu'ils puissent être acceptés et éventuellement gagner des lots s'ils sont les meilleurs offrants.
Certains de ces lots incluent les véhicules de la MONUSCO qui seront généralement exonérés des droits de douane. Quels sont les démarches ou conditions particulières à remplir pour ceux qui souhaitent acheter ces véhicules?
Comme vous l'avez dit, que la MONUSCO juge de certaines exonérations par rapport à l'importation de ces biens, mais maintenant que ce sont les privés qui vont s'en approprier, eux, ils sont appelés à remplir les droits des douanes, c'est-à-dire ceux qui auront gagné des lots, un document leur sera remis, et sur base de ce document, ils vont se rendre au bureau de l'État, précisément à la DGDA, qui a déjà la liste de ces biens que la MONUSCO est en train de mettre en vente, parce que, avant de commencer le processus, nous informons le gouvernement congolais congolais de cette activité. Alors quand ceux qui auront gagné recevra la notification qu'il a gagné un ou deux ou trois lots, maintenant sur base de ce document, il va se présenter au bureau de la DGDA et là il va remplir les formalités douanières. Et là la MONUSCO a déjà pris des arrangements avec la douane pour leur faciliter cette tâche.
Oui, d'aucuns craignent que la douane peut être exorbitante, hein, connaissant le Congo, ça peut être supérieur par rapport à la valeur du véhicule. Est-ce que la MONUSCO a pris des précautions pour essayer de faciliter la tâche à ces souscripteurs-là?
Sauf changement, mais la MONUSCO, à l'époque, était confronté à ce genre de situation. Alors, les négociations avaient été faites entre la mission et le gouvernement congolais pour faciliter justement la prise en compte des prix de vente par, comme ça se faisait dans le temps, on prenait le prix comme si le matériel venait d'arriver. Mais maintenant, là, on tient compte du prix d'achat que l'enchérisseur a acheté ici, localement au Congo.
Ok. Dites-nous alors, M. Joseph, une question que beaucoup se posent. Le personnel des Nations Unies, y compris celui de la MONUSCO, peut-il participer à cette vente aux enchères?
Et je crois bien que cette question avait été clarifiée lors de notre vente passée. Dans le passé, c'était une interdiction, mais depuis, je crois, 2 ou 3 ans, la mission a maintenant ouvert la porte, comme tout autre enchérisseur, donc même les staffs des Nations Unies, toutes agences confondues, sont autorisés à participer. Néanmoins, à quelques exceptions près, il y a des gens qui sont impliqués dans la vente, comme moi et mon équipe. Donc, comme je fais partie de ceux qui traitent les dossiers de vente, nous ne sommes pas autorisés de participer. Si nous voulons le faire, alors nous devons sortir de l'équipe, sinon ça va faire un conflit d'intérêts.
Maintenant que les agents sont autorisés à participer, y a-t-il des conditions spéciales ou des tarifs préférentiels qui leur sont réservés?
Malheureusement non, parce qu'on ne va pas faire deux poids deux mesures. J'aimerais vous rappeler qu'il y a même eu une vente exclusivement réservée aux staff des Nations Unies. Et là, il n'y avait que des staffs. Maintenant qu'ici c'est ouvert au grand public, ben, tout le monde vient comme le grand public.
Monsieur Joseph Monsoala de Procurement, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision éditoriale de Thérèse Kankou. Pierre Diassinois a assuré la mise en onde, la présentation de Grâce Amzati. Merci pour la confiance que vous accordez à la fréquence de la paix.